Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, Natacha Wolinski.
Bonsoir.
Je commence par la fin. Merci pour ce magnifique petit livre que vous venez de nous offrir, publié aux éditions Arléa, dans la collection La Rencontre. Et nous allons parler de, en fait, trois rencontres ce soir. Une rencontre pour le lecteur, une rencontre avec Georges Wolinski, votre père, que tout le monde croit connaître, mais... pour lequel vous nous offrez un portrait privé, intime et méconnu. Une rencontre père-fille qui se sont beaucoup manqués. Et c'est un récit personnel, mais en même temps, c'est un thème universel. Et enfin, une rencontre avec vous, Natacha Wolinski, écrivain, poète, que l'on redécouvre donc avec ce texte. Tout d'abord, une rencontre avec un homme... j'allais dire tout en contraste ou tout en paradoxe, comme coupé en deux. Et pour commencer, je vais lire. Alors, Natacha a accepté de lire certains textes, et puis je vais commencer par lire le premier. Donc, ce portrait d'un homme que vous nous présentez comme coupé en deux, enfant du sud maternel et du nord paternel, minot de sable et des neiges, de Tunisie et de Pologne, tu soufflais le chaud et le froid, poète et dynamiteur. Léger et cuisant, tu étais un continent à double fond dont je ne parvenais pas à cerner les cimes et les abysses. Tu avais des gestes doux et des mots tranchants, des lenteurs et des impatiences, des entêtements et des incertitudes. Tu vivais sans attache et sans nostalgie, dans l'éclat brutal du présent, éloignant les mauvais fantômes, fuyant les injustices du sort et les chagrins passés. Que dire sur
cet homme ? Je crois qu'effectivement, quand on prononce le mot de Wolinski, surtout maintenant, dans ce que j'entends toujours dire la France d'après Charlie, il y a énormément de sens qui sont attachés à ce nom, qui serait celui d'une certaine liberté de parole, d'un certain emblème de la France quand elle exprime la liberté au nom du monde. Et puis, il y a, pour ceux qui connaissent son œuvre, une rémanence de la truculence de ses dessins, de l'engagement politique, son amour des femmes, les dessins érotiques. Donc, il y a, je dirais, un ensemble de non pas de clichés, parce que ça fait aussi partie de lui, mais on est tous plusieurs, on le sait. Et donc, il y a cette partie-là de lui qui est, évidemment, la partie publique. Et c'est normal, les gens ne soupçonnent pas, c'est que les gens publics sont souvent différents dans la sphère privée. Je pense que ce n'est pas que le cas de mon père. Et donc, oui, c'était un homme, par ailleurs, qui avait vécu beaucoup de tragédies dans sa vie et qui était assez peu capable d'exprimer tout ce qu'il avait vécu, qu'il n'en avait pas la volonté. Et qui donc était assez taiseux, en fait, dans le cadre de la famille. Et même si, évidemment, il y avait, comme dans toute famille, des moments de joie, des crobards dessinés sur la table, des oranges pelées avec le couteau pour faire des petits personnages. Voilà, j'ai eu l'enfance une enfance heureuse, mais j'ai eu une enfance aussi portée par beaucoup de secrets et de drames familiaux. Parce que son propre père a été assassiné quand il avait 2 ans. Il est né à Tunis d'un père polonais qui avait traversé toute l'Europe pour fuir les persécutions en Pologne et qui a fini par trouver l'amour en Tunisie auprès d'une jeune femme qui était d'origine juive italienne, une grande famille juive italienne de Tunis. Et donc voilà, donc il a été élevé à Tunis, mais c'est vrai qu'à l'âge de 2 ans, en 36, au moment où il y a eu de nouvelles lois, son père, qui tenait une ferronnerie d'art à Tunis, a dû licencier un certain nombre d'ouvriers, et l'un d'eux est revenu et l'a tué à bout portant devant la mère de mon père, devant son épouse. Et donc il a connu ce premier drame, et du coup sa mère est partie ensuite, il s'est retrouvé seul pendant 7 ans enfin seule non, avec ses grands-parents, parce que sa mère a développé une tuberculose, est partie en 1939 en France, évidemment, ils ne se sont pas retrouvés avant la fin de la guerre. Donc il a eu cette espèce d'enfance quand même difficile, et ajoutons à cela qu'ensuite, à l'âge de 30 ans, 32 ans, je ne sais pas exactement, à vrai dire, je n'ai jamais fait le calcul, il a perdu sa femme, ma mère, dans un accident de voiture.
Et vous-même, vous aviez 4 ans.
Et moi-même, à ce moment-là, j'avais 4 ans, et ma sœur aînée en avait 6 et demi. Voilà. Donc il y a une sorte de reconduction, comme ça, de la tragédie, quand même, si on compte la mort brutale, voilà, qui l'a touché lui aussi. Et donc, voilà, ça fait partie de l'histoire familiale qu'il y ait des disparitions et qu'on ait du mal à parler des disparus. Voilà. Donc, c'est compliqué, des familles comme ça.
Et d'où ce portrait déchiré ? Dans le texte que je viens de lire, il y a « Tu vivais dans l'éclat brutal du présent », ce texte où chaque mot compte, enfin, c'est un texte extrêmement littéraire où chaque mot est choisi. « Tu vivais dans l'éclat brutal du présent », ça fait écho au titre « Son éclat seul me reste ». Et le mot « éclat », justement, on peut être dans un éclat de rire, mais dans un éclat d'obus. Le mot « éclat », je pense qu'il n'a pas été choisi au hasard. Il double face. C'est à la fois très, très joyeux, mais très tranchant, très, très blessant.
Oui, effectivement, c'est un titre qu'on peut entendre de deux façons. C'est, à vrai dire, un vers d'Ovide, de la métamorphose d'Ovide. Je suis tombée dessus, je ne sais plus comment, à vrai dire, mais l'histoire m'a touchée parce que Ovide raconte que la nymphe Daphné est poursuivie par les assiduités d'Apollon, et ça ne dure que trop longtemps, et finalement elle fait appelle à son père, le dieu fleuve Péné, et elle lui dit « Mais comment débarrasse-moi d'Apollon, comment faire pour échapper à Apollon ?» Et en fait, son père la transforme en laurier. Et il dit « Son éclat seul lui reste. » Et j'aimais la formule, mais j'aimais aussi l'idée qu'elle soit transformée en laurier, parce que le laurier, c'est une plante dont les feuilles ne tombent pas, elles restent toujours vertes. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre de l'éternel aussi, dans cette idée-là. Et puis, il y avait l'idée aussi de la métamorphose. Et j'ai le sentiment d'avoir écrit un livre qui parle d'abord de ça. Il ne parle pas, je pense, finalement, ni de la mémoire, ni de la perte, ni du chagrin, même si ça parle de tout ça. Ça parle de comment on doit se métamorphoser quand on vit une histoire et un drame pareil. Comment on part de... On fait un chemin, en fait. On fait un chemin de vie, on fait un cheminement. Et on doit partir de la mort... Et ou du refus de la mort, et on doit aller vers quelque chose qui nous rendrait plus vivants, en sachant peut-être que, ou en prenant conscience que finalement, dans la vie, il y a aussi de la mort. Voilà, ça fait partie du cycle de la vie, et on doit bâtir. Donc on doit bâtir avec tout. Et quand on est enfant, qu'on n'a pas de mère. Eh ben, on bâtit avec l'absence de mère et on bâtit finalement très bien, parce qu'un enfant se construit avec tout, y compris l'absence de tout. Et quand on est plus grand, on bâtit à partir de l'absence de père aussi.
Vous dites quelque part d'ailleurs que c'est difficile à dire et c'est encore plus difficile de l'écrire, mais que la mort de quelqu'un peut libérer, peut délivrer.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la mort permet une sorte de recomposition, en fait, de ce qui s'était égaré en chemin, en fait. Quand on a vécu tout au long de sa vie avec un père qui a du mal à parler de ce qui était sa vie, sa première vie, puisqu'il s'est remarié, et donc a du mal à parler des éléments de l'enfance ou du premier mariage ou de une fois qu'il et qu'on finalement toute sa vie on est un peu en attente toujours qu'on est tous on fait tous pareil on dit mais pourquoi tu m'en parles pas pourquoi tu m'en parles pas de ma mère ou pourquoi t'es pas capable ou une fois que le père meurt on peut tout recomposer comme on veut en fait c'est un peu comme dans quand on rêve on recompose des scènes qui n'ont pas existé. Ben là, quand on écrit, on peut aussi recomposer des scènes qui n'ont pas existé. Et d'ailleurs, quand on lit le livre, on peut penser que c'est un livre... on appelle ça l'autofiction. C'est un genre très particulier où on raconte sa vie. Mais un livre, c'est aussi un objet littéraire qui est reconstruit. Donc il ne faut pas écrire, je crois, des livres vrais. Parce que la vérité, personne ici, personne ne veut l'entendre. Parce que la vérité, elle est soit de l'ordre du silence, ou soit elle est de l'ordre du cri. Mais entre les deux, il faut trouver une modulation. Et donc, je crois qu'il ne faut pas écrire, ou essayer même d'écrire des livres vrais, il faut écrire des livres justes. C'est-à-dire des livres qui soient en accord avec l'émotion qu'on a ressentie. Donc, il faut juste arriver à faire ressentir cette émotion-là, parce que cette émotion-là, elle est universelle. Vous l'avez tous ressentie. On va dire, tout le monde a perdu des êtres chers, tout le monde a l'expérience du deuil, tout le monde... Et donc, il faut à un moment que voilà, tout le monde puisse rentrer dans votre histoire et rentrer dans le livre.
C'est exactement ce que vous dites quand vous dites « Je t'enlève de ton lit de mort et je te couche sur un lit de mots ». Entre le cri et le silence, il y a la littérature. Et... je voudrais revenir sur la question du silence, parce qu'en fait, on aurait pu lire tout le livre. C'est très difficile de le chapitrer. Enfin, c'est un long poème.
C'est un tricot.
On en parlera du tissu, parce qu'il y a du mohair, il y a du velours, il y a du fil, il y a énormément de tricot dans ce texte. Mais à propos de cette, avant de parler de renaissance, il y a donc la rencontre père-fille qui est une rencontre manquée et qui se parachève, enfin qui réussit en retrouvailles. Mais parlons d'abord de la rencontre manquée et de ce silence. Donc je vais à nouveau lire un texte sur les raisons de ce silence, hein, que vous avez déjà exposé. Quels ont été les mots de ta mère pour te dire que ton père ne reviendrait plus? Quels mots a-t-elle prononcé et quels sont ceux qui, une fois prononcés, ont germiné en toi? Sur quel terreau de mots et d'absence de mots as-tu fondé tes propres impasses? Tu n'as pas assisté à l'enterrement de ton père et à ton tour, tu as enterré maman en notre absence. On ne t'a rien dit et tu ne nous as rien dit, de sorte que le fantôme de ton père s'est redoublé du fantôme de notre mère. J'ai passé ma petite enfance à tenter de cerner ce sentiment de flou qui m'habitait, cette incapacité à distinguer ma droite de ma gauche, à trouver des repères dans la ville, à ne pas m'égarer dans les interminables labyrinthes de mes cauchemars. J'ai été élevée sans mère, sous le joug tendre et inquiet d'une grand-mère en deuil de sa fille, d'un père désemparé, d'une belle-mère trop jeune. Je t'en ai voulu de tes silences et de tes surdités. J'ai souffert de tes mutismes propagés comme des ciels de traîne, j'ai souffert de tes paralysies, car à n'avoir pas su nommer et dépeindre notre mère, toi qui savais pourtant si bien la dessiner, c'était Kika et moi que tu empêchais de naître. Sans te le dire, je ne parlais que de cela, du corps absent de la première épouse, des gestes manquants de la mère, je ne parlais que de cela, et tu te dérobais à ses appels muets, opposant à ma quête son intraitable amnésie, étranger à mes questionnements, étranger à toi-même, devenu autre, retranché dans une autre vie, attaché à d'autres amours, à d'autres desseins, irréconciliable avec celui que tu avais été, désuni des passions et des espérances du jeune homme d'autrefois dont nous étions le fruit, Kika et moi, enfant d'une lignée qui jamais ne trouvait sa formule ni son blason. De ton incapacité à nommer ce qui devait être nommé et né, les dernières années, un grand silence entre nous, c'était un silence par défaite. J'ai abandonné la partie, j'ai fait retraite, j'ai cessé de parler, de te parler. En fait, ce livre, c'est exactement le contraire. C'est un dialogue incessant avec votre père.
Oui, on parlait de recomposition. Voilà, le livre permet de recommencer la parole. C'est bien tout le sujet du livre. C'est bien le sujet de métamorphoser les liens qui était, vous dites, une rencontre manquée. Alors, c'est vrai, c'est là où le livre entre en jeu. Évidemment, je livre la partie la plus dramatique de ma vie. Et il est évident qu'il y a une rencontre avec mon père et des liens qui étaient extraordinairement forts et des liens d'amour qui étaient évidents. C'est pas parce qu'un père n'arrive pas à parler de la première épouse qu'il ne manifeste pas son amour et qu'il n'y a pas de complicité. Voilà. Donc c'est là où un livre, c'est comme une photographie, c'est un cadre. C'est-à-dire qu'on peut décider de cadrer une partie de cette pièce et voilà, et je dirais, la pièce était vide. Mais si je vous cadre vous, la pièce est pleine. Donc c'est là où je dis aussi qu'un objet, le livre est un objet de reconstruction qui ne dit toujours qu'une partie de la vérité ou qu'une partie de l'histoire. Donc, je ne sais plus quelle est la question. Même s'il y en avait une.
Non, sur le silence et sur les retrouvailles. Oui. En fait, vous dites aussi qu'il était un homme bulle, bon, parce que caricaturiste, dessinateur, et vous décrivez comme son double somnambule. En fait, vous trouvez beaucoup de liens et presque de décalques de sa vie et de la vôtre, et même de votre caractère. Vous écrivez, nous écrivons d'un même élan le même poème intranquille. Vous êtes...
on va dire, de notoriété publique dans la famille. C'est que je suis celle qui lui ressemble le plus, à la fois physiquement et probablement aussi dans ma constitution et ma façon d'être et de vivre. Et il faut savoir que mon père était quelqu'un d'extraordinairement lunaire. Peut-être comme beaucoup d'artistes, hein, c'est vraiment quelqu'un qui était absorbé par ses dessins, par son univers, et qui, en dehors de ça, était assez inapte. Voilà. Donc, moi, je me souviens d'innombrables retours, avec ma sœur, de colonies de vacances, et quand même, je dirais pas plein de fois, mais c'est quand même arrivé plusieurs fois qu'ils se souviennent, ils ratent parce qu'ils se souvenaient ou pas du jour, ou pas de l'heure, ou pas de la gare. Enfin, il était un peu toujours à côté de la plaque. Et moi, j'ai une capacité aussi qu'on me reproche, que ma fille, du coup, me reproche. Vous voyez, on reproduit les choses. Qui est d'être très absente en étant présente. Donc, oui, ça se lègue, ça. L'absence en état de présence.
Alors, vous êtes journaliste, critique d'art. Vous avez écrit beaucoup d'articles dans de nombreuses revues spécialisées. Vous êtes spécialisée en photographie. Pour ce troisième volet, moi, j'aimerais bien parler avec vous... de notre rencontre avec vous comme écrivain, comme poète, alors qu'on vous connaît comme journaliste. Pour le moment, vous avez écrit 3 livres en ton absence.
Oui.
Celui sur votre mère. Mm-hmm. Un livre avec votre petite sœur Elsa sur les demoiselles de Rochefort.
Oui, absolument.
Et puis ce livre en hommage à votre père. Est-ce que vous avez l'air justement de sortir de l'autofiction? Est-ce que vous êtes délivré maintenant de ces poids?
À vrai dire, je vous entends me qualifier d'écrivain et de poète. J'ai un peu du mal à me qualifier ainsi parce que je considère pas vraiment le livre sur les demoiselles Rochefort comme un livre d'écrivain. Même, il est très bien écrit, hein, j'ai très bien travaillé, nous avons très bien travaillé, mais c'est pas un livre de littérature, je dirais. Donc en réalité, il y a 2 livres. Un sur ma mère et un sur mon père. Et donc, on va considérer que j'écris tous les 10 ans.
Mais pour moi, ce n'est pas du tout de l'autofiction, ni l'un ni l'autre.
Mm-hmm.
Donc, pour moi, c'est de la littérature.
Oui, mais, oui. Mais donc, du coup, l'autofiction peut être de la littérature.
Oui.
Mais se considérer comme écrivain avec 2 livres à l'âge que j'ai, je pense que là, c'est fini. Enfin, j'en ferai peut-être un troisième dans 10 ans, mais voilà. Enfin, on peut faire une œuvre. Il y a des écrivains. Il y a des écrivains, je crois, qui n'ont fait qu'un livre et qui ont marqué la postérité. Mais j'ai pas cette ambition. Donc voilà, les livres, en fait, je les prémédite pas. Voilà. J'ai cette chance ou cette malchance, je ne sais pas, mais je crois que c'est une grande chance. En fait, ils arrivent, les livres. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous m'auriez dit il y a 9 mois que je serais là devant vous, j'aurais ouvert des grands yeux. Et c'était la même chose pour le premier livre. À un moment, il y a une nécessité mais incroyable pour moi d'écrire, mais c'est comme une suée. Je ne sais pas comment vous dire, je ne peux pas vous décrire. Voilà, ça vient. Ça vient et puis ça repart. Alors, quand ça repart, le livre n'est pas abouti. Il ne faut pas exagérer parce qu'il faut quand même le retravailler. Mais dans l'ensemble, il ne faut pas le retravailler tant que ça.
Alors justement, comment est-ce que vous avez écrit ce livre? Est-ce que c'est vrai que vous l'avez écrit dans ce voyage en avion, avec cet enfant russe insupportable, ou est-ce que c'est un ressort?
Alors là, il faut donner peut-être des éléments à la salle pour les personnes qui n'ont pas lu le livre. Je parle beaucoup d'avions, parce que c'est vrai que j'écris beaucoup dans les avions ou dans les trains. Je ne sais pas si c'est des moments, je trouve, où l'avion, c'est formidable, on coupe déjà le portable. Et le train, moins. Mais voilà, c'est des moments où on voit le paysage ou les nuages. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on sait qu'on est hors d'une géographie, hors du temps. Et que, je ne sais pas, pour moi, il s'opère quelque chose dans ces moments-là. Et donc, je parle d'avion parce que j'ai appris, en fait, la mort de mon père alors que j'étais à Singapour, où je faisais un reportage sur la scène de l'art contemporain à Singapour. Et donc, il a fallu revenir de Singapour en avion. Oui, une partie des textes, je voyage beaucoup. Voilà. Quand on travaille sur l'art contemporain, on voyage pas mal. Et donc, il m'arrive beaucoup de voyager. Et c'est vrai que beaucoup de textes sont nés dans l'avion. Et je ne saurais pas dire si c'est parce que, la mémoire de la mort de mon père est attachée à un premier vol, qui serait celui du retour depuis Singapour à Paris. Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, moi, ça m'a servi, en fait, dans la construction du livre. Il y a ce retour depuis Singapour. Et ensuite, il y a en fait beaucoup plus. Il y en a un autre dans le livre. En fait, dans ma vie, il y en a eu beaucoup plus. Et beaucoup de choses, effectivement, ont été écrites depuis l'avion.
Et puis, c'est une image parce que, pour revenir à l'enterrement, donc, qui était public, et qui vous aurait été en quelque sorte confisqué, vous dites qu'à un moment donné, vous vous êtes mis à léviter en un seul mot, à planer. Et le fait d'écrire écrire ce livre dans l'avion et vous affranchir de la pesanteur des heures ombreuses du crépuscule, je lévite au-dessus du cortège, je suis éther et poussière, je suis légère, presque aussi légère que ce soir où la quiétude me vient de ce long vol de nuit et des nuages poudrés d'or que j'aperçois depuis le hublot de l'avion. C'est une...
Ça, c'est comme une vision, en fait, depuis l'avion. C'est-à-dire quand on revit l'enterrement et qu'on est dans un vol et qu'on se remémore ce moment-là, effectivement, on est en état de décollage et on est en état de vision aérienne, d'une certaine façon, sur ce qu'on a vécu. Mais au moment où on l'a vécu, on ne l'évite pas du tout. on est dans un moment qui est incompréhensible. Enfin, pour moi, qui était totalement incompréhensible et que j'ai vécu vraiment très péniblement. Très péniblement parce que il y avait trop de monde, il y a trop de monde. Enfin, je pense de toute façon, je vois pas qui peut vivre bien un enterrement. Mais alors un enterrement avec autant de discours, autant de gens que vous ne connaissez pas, autant de pression de la foule. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très très difficile. Donc il vous faut au moins 3 vols d'avion pour avoir une vision sur ce que vous avez vécu. Une vision panoramique.
C'est pourquoi vous dites que parfois, ne pas savoir, c'est une question de survie. Vous n'avez pas voulu savoir les détails de la...
Oui, mais je ne sais toujours pas. Ça fait partie, c'est peut-être le seul moyen pour moi d'écrire ce livre-là. Je pense que si je connaissais tous les détails de la mort de mon père, je n'aurais probablement pas écrit ce livre-là. Si je peux revenir vers lui, c'est parce que je peux l'imaginer tel que je l'ai toujours connu. Donc oui, effectivement, à Singapour, ma sœur m'a appelée pour me le dire, et c'était le soir en fait. Et j'ai pas écouté la radio, j'ai pas allumé la télé, je n'ai lu aucun message, j'ai pris un Lexomil et je me suis couchée. Et je n'ai jamais rien lu depuis. Je n'ai pas lu les journaux. J'ai mon compagnon qui m'a fait une pile. Voilà, il m'a collecté tout ce qu'il y avait eu sur la mort de mon père en me disant ben voilà, si un jour tu veux lire, ben tu pourras, tu auras les éléments. Mais je suis pas capable. Voilà, chacun fait comme il peut, je dirais.
Ça peut venir dans quelques années. Vous dites que votre père n'a jamais rien voulu savoir sur l'assassinat de son père et que tardivement il s'est mis à interroger l'histoire.
Donc absolument.
C'est bien d'avoir une pile.
En attendant, ça permet d'écrire des livres. Ou moins. Hein.
Je vais lire un dernier texte. Puisque vous êtes spécialiste de photographie, j'aimerais que vous nous parliez du choix de la photographie en couverture. Mais avant cela, je vais lire ce petit texte sur une photographie que vous avez probablement vue dans l'avion. Vous dites « Tu es cette photographie prélevée dans le magazine de l'avion, cette image rébus dont je cherche la clé ». Un corps gît au premier plan, enveloppé d'un drap. Il repose devant une fenêtre ouverte sur un jardin. Le corps est flou, mais le jardin au loin est net. Il faut apprendre à lire les signes lorsqu'ils se présentent à nous. Tu vas rejoindre comme maman les confins brouillés de ma mémoire, mais le jardin va continuer de croître. C'est la métamorphose dont vous parliez, ce flou net.
Ben oui, sans doute. Oui, c'est vrai que c'est une photo que j'ai vue, qui m'a beaucoup frappée. Il y avait effectivement un corps au premier plan complètement flou, et il y avait une fenêtre, et derrière la fenêtre il y avait un jardin, et en fait le focus était fait sur le jardin, et le jardin était absolument magnifique. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça ce qui va se passer, parce que il y a heureusement on finit, on n'oublie pas les êtres qu'on aime, mais on finit par avancer et qu'ils soient plus en premier plan devant vous, mais peu à peu il s'efface, heureusement, parce qu'il faut bien vivre. Et je me suis dit, voilà, peu à peu, comme ma mère d'ailleurs, il va être là, il va être en arrière-plan, ou alors il va être devant moi, mais il va flouter, et il va rester tout ce qui est le beau paysage qui reste derrière, et qui va continuer il faut le faire croître, ce beau paysage-là.
Alors, décrivez-nous cette photo et pourquoi. Est-ce que c'est l'éditeur qui l'a choisi? Est-ce que c'est vous?
C'est en accord. L'éditeur, enfin, il se trouve que Arléa a des couvertures avec des photos. Mon penchant naturel aurait été de ne pas mettre de photos. Mais une fois que vous avez un éditeur qui vous dit il faut une photo, il faut bien la trouver, la photo. Et c'est pas facile.
Surtout dans votre cas, vous êtes quand même spécialiste de photographie.
Oui, 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 mais ça ne veut pas dire que j'ai tant de photographies que ça de mon père. En tous les cas, tant de photographies qui... Parce que j'avais envie de quelque chose de solaire. Voilà, que j'avais envie qu'il soit beau. Et il est très beau sur cette image-là. Vous parliez de l'éclat. Il y a aussi un éclat et une douceur dans cette photo-là qui... C'est une photo, en fait, qui est prise... qui est lié à des beaux souvenirs pour moi, parce que c'est prise sur la plage à Joint-les-Pins, et on passait nos vacances avec ma grand-mère, une fois que ma mère est morte. Ma grand-mère nous gardait l'été, et on passait les vacances à la plage avec ma grand-mère. Et il venait nous rejoindre à un moment. Et donc ce sont des beaux souvenirs.
Il a quel âge?
Et il doit avoir, je sais pas, 33, 34 ans là.
Donc c'est pas du tout le Wolinski que nous on connaît.
C'est pas le Wolinski que vous connaissez, mais c'est mon papa.
c'est l'objet du livre. Dans vos rêves, vous dites voir votre père écrire sur le plat du ciel avec une encre invisible une phrase qui pour moi est énigmatique. Donc je vous demandais de nous en parler. Il écrit : ce n'est rien, mon enfant. Il faut savoir durer, mais pas s'éterniser. Est-ce que c'est une phrase optimiste, fataliste ?
Ah ben ça, c'est une phrase de Wolinski. Ouais. C'est un vrai dessin, en fait. Mon père On a fait une exposition au Palais de Tokyo à Paris en prenant des œuvres plutôt de jeunesse. Et quand il était jeune, notamment après la mort de ma mère, il a fait énormément de dessins de falaises. Alors, il y a la falaise, il y a le soleil. Alors, il est au bout de la falaise, il est au bord de la falaise. Et donc, on ne sait jamais, en fait, s'il est fasciné par la beauté du monde ou s'il va chuter. Et sur un de ces dessins de falaise, à chaque fois, il y a une petite bulle. Donc, il y a des phrases différentes suivant les falaises. Mais un de ces dessins de falaise, c'était cette phrase-là que vous allez répéter parce que je ne la connais pas par cœur. Ce n'est rien.
Ce n'est rien, mon enfant. Il faut savoir durer, mais pas s'éterniser.
Alors, le dessin, il y a juste marqué « ce n'est rien ». Il faut savoir durer.
Il faut savoir durer, mais pas s'éterniser.
Voilà. Et moi, j'ai repris j'ai rajouté le segment « mon enfant » parce que je trouve que c'était une phrase typique des paradoxes de mon père. Voilà, il avait toujours cette espèce d'ambivalence dans sa façon d'être au monde. Et je crois que c'est assez juste. Il faut être présent au monde, il faut être constant dans ce qu'on a entrepris, il faut savoir léguer les bonnes choses, mais il faut savoir aussi partir et laisser à ses enfants les moyens et les armes pour vous prolonger.
Alors cette présence au monde, vous en parlez très bien, on n'a pas du tout parlé du côté tunisien, mais c'est un livre dans lequel il y a du couscous, des boulettes, énormément de saveurs et de bonheur de vivre.
Et oui, parce qu'on est très grave là quand même, mais bon.
Cette phrase écrite sur le plat du ciel avec une encre invisible, elle fait écho à la phrase de Jacques Roubaud que vous avez placée en exergue. Ce morceau de ciel t'est désormais dévolu. Donc ce livre-là, c'est ce morceau de ciel qui lui est désormais...
On revient à l'avion. Non, on revient surtout à la poésie parce que dans les moments très durs, la littérature ou le texte ou la poésie sont d'une grande aide. Et si j'ai commencé le livre par un poème un petit poème de Jacques Roubaud, c'est parce que Roubaud lui-même avait épousé une très jeune femme qui était beaucoup plus jeune que lui, Alix Cléo Roubaud, qui avait peut-être 25 ou 30 ans de moins que lui, et qui était une personne tout à fait exceptionnelle, une jeune philosophe qui faisait aussi de la photo, et je vous invite vraiment à regarder à la fois ses photos et à lire ses livres. Et elle avait de l'asthme, et en fait, elle est morte dans son sommeil. Et il en a été absolument inconsolable. Et il a écrit un des plus beaux livres de la littérature contemporaine sur le chagrin qui s'appelle Quelque chose noir. Et voilà. Alors peut-être que je pourrais lire ce poème-là, justement, qui n'est pas de moi, qui est de Jacques Roubaud. Ce morceau de ciel, désormais, t'est dévolu, où la face aveugle de l'église s'incurve. Compliqué d'un marronnier, le soleil là hésite, laisse du rouge encore, avant que la terre émette tant d'absence que tes yeux s'approchent de rien. Voilà, ça c'est Jacques Roubaud. Eh bien, Jacques Roubaud m'a beaucoup aidée.
Merci. Voilà. J'ai une dernière petite question subsidiaire que je n'ai pas su où placer dans ces trois rencontres. C'est votre goût, votre amour des tissus. Je disais tout à l'heure qu'il y avait...
On n'est pas à Lyon, pourtant on est à Bordeaux.
Mais... Non, mais nos frayeurs et nos solitudes d'enfants sont ourlées nos paupilles d'un même velours inquiet. Dans la cérémonie d'enterrement, ce qui vous rassure, c'est le feutre bleu de Lola, de votre fille. Vous parlez de la ouate des souvenirs. Vous parlez beaucoup des draps, du suaire, mais vous parlez aussi du mohair des jours heureux. Et aussi à propos de votre travail de journaliste, vous dites, vous êtes pleine de chagrin, mais vous restez concentrée sur votre travail. Vous dites, je tisse avec soin les fils de mon enquête. Il y a souvent l'expression perdre le fil. Vous parlez aussi de la capacité expressive du tissu et le tombé des drapés. D'où vous vient cet amour du tissu, du fil?
Alors, je crois que vous avez été déçue parce que je vais avoir une réponse très littérale. Il faut savoir que ma grand-mère, qui m'a en partie élevée, était une couturière. Donc, j'ai été élevée avec le tissu. Et elle avait une boutique et les clientes venaient essayer dans la boutique. Et invariablement, ou ma sœur ou moi, on essayait de rentrer dans la cabine d'essayage en même temps que les clientes. J'ai vu ma grand-mère toute sa vie avec une épingle attachée au revers de sa veste. Elle rentrait chez elle avait encore oublié les épingles qui étaient attachées au revers de son manteau ou de la veste qu'elle portait ce jour-là. Et donc, je n'y avais pas songé, mais voilà, je vous fais la réponse qui me paraît la plus évidente comme ça, c'est que je suis très sensible effectivement au tissu. J'ai vu naître devant mes yeux beaucoup de vêtements, beaucoup de drapés.
Je suis pas du tout déçue par votre réponse et j'aime beaucoup les réponses littérales. Et ici, mais je ne me souviens plus quel auteur a parlé très longuement de sa grand-mère couturière et de l'expression droit fil, trouver le droit fil. Mm-hmm. Et à quel point ça l'avait aidé dans sa vie. Mm-hmm. Donc parfois, les images les plus littérales sont mm-hmm. les plus
justes
et
pas vraies, mais justes.
Merci.
Mais je vous en prie.